Jean-Claude, Jean-Claude avait tellement de choses à dire ce matin qu'il a oublié. En fait, je dois dire peut-être qu'il était gêné de vous dire qu'aujourd'hui, c'est son 50e anniversaire de mariage avec Micheline. Eh bien, bonjour. Ça me fait plaisir pour moi de vous donner l'enseignement, la parole aujourd'hui, parce que le thème est tellement beau. Le thème aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance. Pour moi, il y a quelque chose dans ça, c'est l'essentiel, la nouvelle alliance. Je regardais dans le programme.
C'est ouvert, ça. Est ouvert.
Est-ce que vous entendez mieux?
Oui.
Ah, merci. Si vous m'entendez moins bien, parce que je veux parler moins fort, levez les bras comme ça. Oui, d'accord. Je disais que je suis très heureux de donner l'enseignement aujourd'hui parce que le thème est très, très beau. La nouvelle alliance. C'est l'essentiel, en fait, de notre foi. Tous les thèmes de l'année, il y avait le chapeau, si on peut dire, le titre de l'année, c'était la loi nouvelle. Le mot « loi » résonne un peu comme c'est un peu dur, c'est difficile, c'est l'obéissance. Mais durant toute l'année, on a pu voir, à Foi et Partage, qu'au fond, la loi, c'est quelque chose de plein d'amour, au fond. Et aujourd'hui, on pourrait dire, on arrive au terme, et je dirais, à la réalité la plus fondamentale. La loi nouvelle, fondamentalement, c'est la nouvelle alliance. Si je vous pose la question à vous aujourd'hui, je dis, une alliance, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que ça éveille pour vous, ce mot-là, alliance?
Le mariage.
Le mariage, oui, c'est le cas de dire, hein? Un contrat.
Union.
Oui, c'est ça. En fait, quand on regarde, il y a toutes sortes d'alliances. Il y a des alliances économiques, il y a des alliances militaires, les alliés, hein. Et puis, mais surtout, au fond, qu'on regarde, c'est une relation entre deux personnes. L'alliance à l'occasion de mariage, une fiançaille, les bagues, l'alliance qu'on appelle l'alliance, c'est ce que ça représente, l'union. L'union qui est appelée à durer, parce que alliance, ça suppose aussi une sorte d'un engagement. Un engagement. Quand il s'agit de, dans la Bible, quand on parle d'alliance, c'est pas d'abord la relation entre moi et toi à côté, entre deux personnes, c'est la relation de Dieu avec son peuple. C'est la relation de Dieu avec son peuple, le peuple juif, le peuple israélite. Il y a quelque chose de global, pas simplement personnel, intime, individuel, c'est collectif. Mais nous, ici, on peut l'entendre, et c'est vraiment ce que je souhaiterais qu'on entende, alliance. Ça veut dire aussi la relation de Dieu avec son Église. Mais aussi, ça veut dire la relation de Dieu avec chacun de nous ici. C'est ça qui va être important, de découvrir qu'est-ce que c'est cette alliance-là que Dieu fait avec nous aujourd'hui. Mais le thème, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau, de changé, il y a quelque chose de neuf et d'étonnant qui a été apporté par Jésus. La nouvelle, la nouveauté, c'est Jésus qui l'a apporté. Il y avait ce qui était avant Jésus, puis ce qui est après Jésus. C'est toute la différence, la nouvelle alliance. Et au fond, on peut être invité à regarder qu'est-ce que c'est pour nous. Et j'aimerais vous montrer, ou j'aimerais pas vous montrer, mais vous faire ressentir que la nouvelle alliance, c'est ça le fond de notre cœur, c'est ça le fond de notre engagement, c'est ça qui nous appelle à aller plus loin. S'il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à l'année de la miséricorde, c'est ça, découvrir qu'au fond, la nouvelle alliance est une alliance de miséricorde de Dieu envers nous. On m'a donné ici, dans le thème de l'année, on m'a donné des citations bibliques, Luc 22, 14, 20. Et je vais retirer de cette citation une phrase. Vous allez me dire, au fond, où est-ce que vous l'avez entendue, où est-ce que vous l'avez lue. Cette phrase-ci, c'est ceci. Prenant la coupe, Jésus dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. » Vous avez entendu cette phrase-là à quel endroit? Consécration à la messe. Mais aussi, cette parole-là, je dirais, on pouvait l'avoir lue, parce que c'est la parole, pas entendue, parce que ça date du temps de Jésus, mais c'est la parole que Jésus a dit aux apôtres le jeudi saint. C'est une parole de Jésus. Le texte qui a été suggéré est un peu plus long, parce que c'est plus aussi le Coran. Ce qui était suggéré, c'était « Puis, ayant pris du pain, il rendit grâce, il rompit le pain et leur donna en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. » Vous savez, les paroles de la consécration, les paroles de l'institution de l'Eucharistie, on les retrouve dans quatre places dans le Nouveau Testament. Dans trois évangiles, on a ici aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, dans l'évangile de Marc et de Matthieu, et aussi dans l'épître de saint Paul aux Corinthiens. Et l'épître de saint Paul aux Corinthiens dit aussi quelque chose qui est semblable. Il dit, après le repas, Jésus fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Vous allez dire, c'est semblable, les autres, c'est à peu près pareil. Oui, mais les autres n'ont pas marqué que c'était la nouvelle alliance. Mais les autres aussi vont parler quand il s'agit de la coupe, ils vont parler de l'alliance. Saint Marc va dire, Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » Et puis Saint Matthieu va dire aussi, « Il leur donna la coupe en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. » Vous allez voir que dans l'Évangile qu'on a lu de Saint-Luc qui était suggéré, il est question de l'Alliance nouvelle. Dans Saint-Paul, l'Évangile parle, le texte nous dit l'Alliance nouvelle, tandis que les deux autres disent simplement l'Alliance. Mais au fond, il y a quelque chose de fondamental. L'Alliance est faite à travers la réalité du sang versé. Et c'est pour ça, au fond, que dans les paroles de la consécration, on retrouve quelque chose les paroles de consécration que le prêtre dit, on retrouve quelque chose qui est un peu de tous les évangiles, mais qui redonne l'essentiel de ce que c'est. Les paroles de la consécration que vous avez entendues, qu'on entend et que le prêtre dit à chaque fois, c'est très mystérieux ces paroles-là. Hein? Le prêtre dit, prenez, au sujet de la coupe du vin, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Dans cette formule que le prêtre dit, on retrouve tous les éléments qu'on a à travers les quatre évangiles, les trois évangiles et saint Paul. On retient une chose, l'Alliance nouvelle, c'est dans le sang versé. Donc, ça fait référence à la mort de Jésus. Quand il s'agit du corps, on va dire le corps livré, rompu. Mais quand il s'agit du sang, c'est le sang versé. Ça fait référence absolument, je dirais, c'est essentiel à la mort de Jésus. Mort de Jésus sur la croix. Le sang versé pour vous et pour la multitude. C'est un sang qui avait une raison. Il y avait quelqu'un qui était pour en profiter ou qui ça concernait quelqu'un. Versé pour vous, pour chacun de nous autres, et pour la multitude, ça c'est toutes les personnes, tous les humains, les hommes, les femmes, de tous les temps. Il y a quelque chose de grandiose dans ça. En rémission des péchés. Il y a cette référence à cette réalité de chacun de nous d'être pécheur, mais pour effacer tous les péchés. Et c'est ça, cette réalité de la Nouvelle Alliance. La mort de Jésus pour nous, pour tout le monde, en rémission des péchés. Cette réalité-là, ce que je viens de dire, c'est les paroles de la messe. Mais d'abord, c'est cette réalité qui a été vécue par Jésus lui-même le jeudi saint dans l'institution de l'Eucharistie, le vendredi saint dans la mort de Jésus. C'est ça l'Alliance nouvelle. Et dans la résurrection. Vous allez dire, oui, mais quand il est question d'ici, de mort de Jésus, oui, on comprend, c'est le sang versé. Mais pourquoi tu ajoutes la résurrection? Parce que c'est ça, pour moi, l'essentiel. La raison pour laquelle il faut tout le temps, quand on parle de la mort de Jésus, il faut tout le temps ajouter la résurrection de Jésus. Si on parle de la mort de Jésus, puis on arrête là, ben, ça va être comme toute personne. On fait du bien, on fait quelque chose d'extraordinaire. Jésus a parlé, il a été extraordinaire, puis il est mort. Oh, c'est fini. Il aurait été comme n'importe quel homme, n'importe quel humain. Mais si on ajoute la résurrection, à ce moment-là, la résurrection, c'est le signe que ce Jésus-là, c'était vraiment le Fils de Dieu. Si on oublie la résurrection, si on oublie de mentionner la résurrection, c'est comme si on parlait de Jésus, qui n'est pas le Fils de Dieu, il est simplement un homme comme nous autres. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps parler de mort et de résurrection. Et ce que je dis là, ce n'est pas quelque chose de, comment je dirais, de personnel. Jésus, à chaque fois qu'il a annoncé qu'il était pour mourir, à chaque fois, il a ajouté, hein, le Fils de l'homme va venir, il va souffrir la passion, il va être crucifié, il va mourir. Et le troisième jour, il va ressusciter. Et c'est pour ça qu'on doit dire, au fond, la Nouvelle Alliance, c'est cette réalité de Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Et la résurrection vient dire que ces paroles qu'il nous avait dites, qu'il avait annoncées, c'est pas simplement un beau rêve qu'il avait eu, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'à la fin de la consécration, à chaque messe, pour moi, ça me touche au fond. À chaque fois, après la consécration, on dit « Il est grand le mystère de la foi ». Donc, il y a cette réalité de la mort de Jésus et de la résurrection. Ça, c'est vraiment la nouvelle alliance. On pourrait dire, elle a été vécue d'abord le vendredi saint, le jeudi saint, le vendredi saint et le jour de Pâques. Et à chaque messe, cette réalité de la nouvelle alliance est vécue à chaque messe. C'est aussi grand que la mort et la résurrection de Jésus, chaque messe. Quand j'étais jeune, j'avais appris que chaque messe, ça a une valeur infinie. Une valeur infinie. On ne peut pas ajouter plus. Puis là, après ça, on va dire, puis, oui, mais quand de deux messes, on fait dire deux messes ou 10 messes, ben oui, mais on ne peut pas dire, ajouter 10 ou multiplier par 10, ce qui est déjà infini. Pourquoi que chaque messe, c'est infini? C'est parce que c'est aussi grand que ce qui a été vécu sur la croix et à la résurrection de Jésus. Et c'est pour ça que je reviens aux paroles qu'on dit après la consécration, il est grand le mystère de la foi. La foi, la mort, la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est pour ça que quand on va parler de la nouvelle alliance, au fond, on peut dire la nouvelle alliance, c'est le cœur de notre foi parce que c'est fondé sur la mort et la résurrection de Jésus. Ce n'est pas simplement une nouvelle étiquette pour parler de spiritualité, c'est fondamentalement, c'est fondé sur la mort et la résurrection de Jésus, comme à chaque messe. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? La nouvelle alliance. Vous savez, 600 ans avant Jésus-Christ, il y a eu le prophète Jérémie qui a parlé de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Je vous inviterai à écouter ce texte-là, il est tellement beau, le texte de Jérémie, qui parle de la nouvelle alliance, mais qui parle aussi de l'ancienne alliance. Voici qu'est-ce que le texte dit. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompu, alors que moi, j'étais leur maître. Oracle du Seigneur. Il y avait l'ancienne alliance, ils l'ont rompue. Et le texte continue, « Voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à s'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, et je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Ce texte-là a été écrit par le prophète Jérémie dans une situation étonnante. Le prophète Jérémie, au début de sa vie, il s'est fait taper dessus par les gens qui étaient autour de lui. Il reprochait, il dit, « Il faut que vous vous convertissiez », puis les gens n'aimaient pas ça, puis ils l'ont fait arrêter, puis il annonçait le malheur. C'est pour ça qu'on disait, « Ah, les Jérémiades. » Mais c'est au moment où lui a vécu l'épreuve, c'est au moment où le peuple juif était envoyé à Babylone, exilé à Babylone, et lui, il est emmené en Égypte. C'est à ce moment-là qu'annonçait quelque chose de beau, de grand. Remarquez qu'il annonce, et c'est tout au futur. Et c'est avec Jésus que ça va se réaliser, l'Alliance nouvelle. Je vais lire au fond l'essentiel de ce texte-là. Rappelez-vous comment c'est beau. Ça va être tellement profond qu'on n'aurait même plus besoin de se dire, oui, apprends quelque chose de neuf. Ça va être déjà inscrit dans nos cœurs, que ce soit un vieux, un plus jeune, tous, hein, du plus petit au plus grand. Et regardez la dernière phrase. « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Ça n'existera plus, comme si ça n'existait pas. Ça va continuer, mais moi, Dieu, c'est comme si ça n'existait pas. Voici le texte de cette nouvelle alliance. « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à s'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leur péché. » C'est ça la nouvelle alliance vécue par Jésus. Il y a un deuxième texte aussi, écrit par un autre prophète, le prophète Ézéchiel. En mémoire, le premier texte, c'est Jérémie 31, versets 31-34. Le deuxième texte, c'est par le prophète Ézéchiel. Ézéchiel était dans une situation tout à fait différente. Il était à Babylone. Et puis, il disait aux gens qu'il fallait changer leur cœur. Les gens rêvaient en retourner à Jérusalem. Non, non, il faut changer votre cœur. Et lui non plus, il avait de la difficulté. Et c'est à un moment où c'est le plus difficile qui a fait cette prophétie ici, qui va parler non plus de la nouvelle alliance, mais de l'esprit nouveau. Pour moi, c'est tellement semblable. Et les deux textes, quand on regarde dans la Bible, quand on parle de l'alliance nouvelle du Jeudi Saint, ces deux textes sont cités en référence. Donc, c'est annoncé 600 ans avant Jésus-Christ, ou 500 ans à peu près. « Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivrez mes lois et vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. » Remarquez, Jésus, le texte vient nous dire qu'on va être libéré, au fond, de nos souillures. Hein. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Rappelez-vous ces textes-là, quelque chose de ces textes-là, et laissez rentrer à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une question de logique, ce n'est pas une question de mémoire. Laissez-vous comme nourrir votre cœur, parce que votre cœur, parce que ici, il ne s'agit pas de logique. Il s'agit, au fond, de comprendre avec le cœur. Et ce qui est étonnant, ces textes-là, les petits vont le comprendre parce qu'ils ont soif de quelque chose, parce qu'ils ont en appétit de quelque chose, ils ont besoin de quelque chose. Les petits, les fragiles, les épuisés. Mais d'un autre côté, et c'est ce qu'on va voir un peu plus loin, les forts, les puissants, ceux qui sont forts en ont pas besoin d'entendre cette parole-là. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils sont forts, ils sont corrects, ils sont parfaits. Donc, ces deux textes-là, c'est des textes fondamentaux. 600 ans avant Jésus-Christ, l'Alliance nouvelle a été annoncée, proclamée par les prophètes Jérémie et Ézéchiel. Mais l'Alliance nouvelle a été réalisée complètement par la mort et la résurrection de Jésus. Mais avant de mourir, Jésus, au fond, a proclamé dans ses paroles, dans ses enseignements, a proclamé aussi l'Alliance nouvelle qui va vivre. Et ça, c'est cette réalité-là, de proclamer dans ses actions, ses miracles, il va annoncer l'Alliance nouvelle dans la vie publique. Mais dans les 3 jours de sa vie du ministère pascal, c'est ça qu'il va réaliser dans sa propre chair. Donc, Jésus a annoncé l'Alliance nouvelle par son être, parce qu'il était proche des petits, proche, et surtout, on va lui reprocher, proche des gens de mauvaise réputation. On va lui reprocher parce que, au fond, c'est pas comme ça que le vrai Messie devrait être. Les pharisiens, en fait, vous savez, c'est des pharisiens que je parle, hein, qui ont résisté à Jésus, parce qu'il mangeait avec les prostituées, avec les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise réputation. Pour eux autres, c'était pas ça la nouvelle alliance. Ah, ils n'en avaient pas besoin, eux autres, parce qu'ils vivaient à l'aise dans l'ancienne alliance. Jésus, au fond, dans son enseignement, a vécu la nouvelle alliance. Il y a eu beaucoup d'opposition, donc, de la part des gens corrects, des pharisiens, des gens de bonne mœurs. En fait, les pharisiens, nous autres, faut voir que Jésus, au fond, est allé manger avec les pharisiens. Il y en avait des bons, hein? Il y en avait des bons. Mais quand Jésus parle des pharisiens, c'est de ceux qui se pensent les meilleurs. Quand on regarde dans l'histoire du peuple juif, c'est vrai que les pharisiens, c'était des laïcs, c'était pas les prêtres. Les pharisiens qui ont pris au sérieux, et surtout quand ils étaient en exil à Babylone, qui n'avaient plus de prêtres, qui n'avaient plus de temple, les laïcs ont pris la loi, l'enseignement, si on peut dire, au sérieux. Et puis, ben là, ils se sont mis à observer cette loi-là. Mais avec le temps, ils en ont ajouté des choses, puis ils en ont ajouté des choses. Puis, avec le temps, dans le temps de Jésus, et dans le temps de Jésus, on dit que si on suivait toutes les législations ce qui était marqué dans l'Ancien Testament, ça ferait à peu près 360 défenses. Tu ne tueras point, tout ce qui est négatif, tu ne mentiras pas. Et puis, il y a à peu près 180 observances positives. Tu devras payer la dîme. C'est pour ça que le jeune pharisien qui voit Jésus, il dit « Qu'est-ce que c'est l'essentiel? » Mais au fond, c'est pas tous les pharisiens qui avaient ce cœur-là à chercher l'essentiel. La majorité, et c'est l'histoire au fond du pharisien et du publicain, du pharisien, qui disait « Regarde Seigneur, comme moi je suis bon. » Donc Jésus a eu de l'opposition parce que, je dirais, c'est difficile à comprendre qu'est-ce que c'est cette nouvelle alliance. La nouvelle manière de Dieu d'être en relation avec les hommes. Les pharisiens pensaient qu'il y avait une manière. Difficile de comprendre comment l'amour de Dieu pour les hommes, pour tous les hommes, difficile de comprendre la miséricorde de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est difficile de comprendre qu'est-ce que c'est la miséricorde. L'essentiel. En prenant, au fond, la parabole du fils prodigue, comme vous connaissez, en fait. Hein? Je vais faire simplement un résumé, parce que vous connaissez la parabole de l'enfant prodigue. Vous savez, le jeune fils qui demande à son père « Donne-moi ma part d'héritage. » Remarquez comment le père, il a respecté la liberté de son fils. Il l'a respecté. Si ça avait été l'esclave, il aurait pu dire « Reste ici », mais c'était son fils. Il l'a respecté. Ça a dû déchirer son cœur, mais il l'a respecté. Il a respecté la liberté de son fils de la même façon que Dieu respecte notre liberté à nous. Donc, le fils part avec son argent, et on sait qu'il va gaspiller l'argent, et puis bon, ben là, à un moment donné, il est obligé de travailler avec des cochons, mais il meurt de faim. Puis là, il rentre à l'intérieur de lui-même, hein, et puis il se met à penser, voici, rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. En fait, être pour lui, pour le fils prodigue, avec tout ce qu'il avait fait, il ne pouvait plus. Ce n'était pas possible de penser qu'il était, pouvait être traité comme un fils. Traite-moi comme un ouvrier, au moins j'aurai quelque chose à manger. Vous savez, hein? Mais retenez le mot, je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Alors, il s'en va vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il l'attendait. Le cœur du père était là, il l'attendait. Il savait qu'il était pour revenir. Il désirait beaucoup qu'il revienne, parce qu'il savait que son fils était pour être dans la misère. Le père se jette à son cou et le couvre de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Encore une fois, je ne mérite plus. C'est une confession qui est faite là. Mais comme si le père n'entendait même pas la confession. Parce que regardez, il dit, mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe, habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il est perdu, il était perdu, et il est retrouvé. » Deux registres. Le registre du fils qui dit, « Je ne mérite pas. » Le registre du père, c'est, « Tu n'as pas entendu son fils, parce qu'à l'intérieur de son fils, son cœur, il y avait un élan, une joie. » Et puis, il dit à ses serviteurs, « Ben, mettez-lui la robe du fils. Hein? » Le pape, dans une allocution avec les prêtres, au sujet justement de la miséricorde, l'année de la miséricorde, il a dit quelque chose. C'est vrai. Le père n'a pas dit à son fils, « Ben là, va prendre ta douche, là, parce qu'il est tout sale, là. Va prendre ta douche, puis après ça, on va te mettre ton manteau. » Non. Il a mis le manteau au-dessus de la saleté, la crasse, la dignité de fils. Ce n'était pas une question de mérite ou de pas mérite. Il y a quelque chose de fondamental. C'est mon fils. Il se retrouvait. C'est la logique de l'amour. Ce n'est pas la logique du mérite. Si on continue dans la parabole, au fond, on voit, remarquez que quand on regarde le fils prodigue, c'est un peu comme s'il était tellement étonné qu'il ne dit rien. Le fils prodigue avait de la difficulté à rentrer dans la joie et dans la fête. Il se sentait honteux, il se sentait coupable. Mais l'amour du père, je dirais, c'est plus fort que la culpabilité, c'est plus fort que la honte. Mettez-lui le manteau au-dessus de sa crasse. Ça va supprimer tout ça. C'est comme si sa crasse n'existait plus. Si on regarde le restant de la parabole, c'est aussi la dynamique du mérite. Hein? Le fils aîné qui est là, qui était fâché. Hein? Moi, j'ai été à la maison, j'aurais mérité d'être traité, puis j'ai jamais eu un banquet comme ça, j'ai jamais eu un veau gras avec mes amis. J'aurais mérité. Et puis regarde ton fils là. Lui, il n'aurait pas mérité, il est allé bambocher avec les filles, puis toi, tu y fais un banquet. Ça n'a pas de bon sens. Au fond, la logique de la miséricorde, ça n'a pas de bon sens. C'est pas la logique des hommes. C'est pas la logique des hommes. Et je dirais, c'est même pas la logique de la première alliance. Parce que dans la première alliance, on disait, Dieu va récompenser la personne qui fait bien et va punir la personne qui fait mal. Et c'est pour ça que les pharisiens ont fait tous des efforts pour bien faire des choses. Et là, ici, on rentre dans la parabole, du pharisien et du publicain. Vous connaissez la parabole. Jésus nous dit, hein, Le texte de l'Évangile nous dit, hein, Jésus dit encore la parabole que voici à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes, qui étaient corrects eux autres, et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple. Si on regarde l'attitude du pharisien qui est décrit ici, hein, il y a une attitude au fond d'orgueil. Regarde, Seigneur, je te rends grâce parce que je suis bon. Il ne s'adresse pas, au fond, à Dieu pour dire « Je te rends grâce parce que tu es bon. Regarde, je te rends grâce parce que moi, je suis bon. Hein? Je ne suis pas comme ceux-là qui sont autour de moi. Hein? » Au fond, ce qu'il va dire, hein? Il va se comparer aux autres. « Regarde, moi, je suis meilleur. » Puis il va dire que, regarde, c'est vrai. Il dit « Je jeûne deux fois par semaine. » Je paye la dîme de tout ce que je me procure. Je suis bon. Et c'est vrai ce qu'il dit. Il le fait. Et probablement plus, il en fait plus que ce qu'il dit. Mais il oublie de reconnaître qu'à l'intérieur de lui aussi, il y a toutes sortes de réalités. Et en particulier, on le voit, des réalités de péché. En particulier, par rapport dans sa relation avec les autres qui sont autour de lui. Je suis bon, mais il n'est pas capable de dire « je suis pécheur ». Non. C'est pour ça qu'étant bon, il va dire « Seigneur, je suis correct ». Le publicain, lui, il ne fait même pas de confession. Sauf qu'il fait la confession essentiel. Il ne dit pas « j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose ». Quand on dit qu'on fait telle chose, telle chose, telle chose, le danger, c'est qu'il y a un tas de choses que je n'ai pas faites ou que j'ai faites, mais que je ne mentionne pas. Lui, il va à l'essentiel. Je suis un pécheur. Prends pitié du pécheur que je suis. Prends pitié du pécheur que je suis. Et le texte, c'est la conclusion que Jésus donne. Celui-là, il est retourné chez lui justifié. Ça veut dire qu'il est retourné chez lui lavé, purifié, rendu saint. Par quoi? Pourquoi? Parce qu'il s'est reconnu le pécheur, parce qu'il s'est reconnu qu'il avait besoin d'aide, qu'il avait besoin de la miséricorde. Prends pitié de moi, Seigneur. Il retournait chez lui, justifié, purifié. Et le texte ajoute, l'autre, non, il n'est pas retourné chez lui, justifié, il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. La parabole de la miséricorde divine ne s'appuie pas sur le mérite. Elle s'appuie sur la justice, sur l'amour gratuit de Dieu. J'aimerais présenter aussi une nouvelle parabole, une autre parabole que vous connaissez bien, mais que souvent les gens ont de la difficulté à comprendre. C'est les ouvriers de la dernière heure. Vous connaissez cette parabole-là?
Oui.
Souvent, quand on présente cette parabole-là, les gens sont mal à l'aise. Et puis, à la fin, ils vont dire, « Ben non, on serait d'accord avec celui qui se plaît, parce que Dieu n'est pas juste. » Parce que Dieu n'est pas juste. C'est le sentiment qu'on a ici, aujourd'hui, dans notre mentalité. La justice. Il faut être juste. En fait, il y a quelqu'un, c'est vrai, qui a travaillé 8 heures, 10 heures, qui a travaillé fort. La chaleur, mais d'ailleurs, je vais le dire, hein, c'était chaud, on a eu chaud, et puis voici qu'à travers la journée, il y en a qui rentrent. Il y en a un qui est rentré à 5 heures, puis il a travaillé seulement qu'une heure. La logique selon notre logique distributive, hein, la justice, c'est chacun doit recevoir selon son travail. Selon son travail. À salaire et à travers égal, salaire égal. Ça, c'est notre justice, et c'est déjà une amélioration extraordinaire d'avoir ça dans nos conventions collectives, quoi qu'on ne respecte pas nécessairement entre les hommes et les femmes. Mais ça, c'est une autre chose. À salaire égal, à travail égal, salaire égal. Et l'homme ici, le maître de la vigne, ne respecte pas ça. Pourquoi? Souvent, on oublie d'entendre profondément la parole du maître qui explique pourquoi. Hein? Le maître de la répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ?» Le maître est juste. On avait convenu un denier, voici, je te donne. C'est la justice. On l'avait convenu. Prends ce qui te revient et va-t'en. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit après. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est un peu comme si celui qui est venu faisait le reproche, écoute, tu es en train de gaspiller ton argent, tu aurais pu payer juste la moitié ou le quart, le dixième, tu gaspilles. Mais le Père dit, est-ce que je n'ai pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Est-ce que Dieu n'a pas le droit de faire ce qu'il veut de son amour? Et c'est ça, au fond. Dieu est complètement libre de son amour. Et en étant complètement libre de son amour, il est juste, mais c'est sa justice à lui, la justice de l'amour. Ce n'est pas la justice des hommes, celle de la rétribution, celle de la gratuité, celle de la gratuité. Est-ce qu'on peut avoir un chant? L'alliance nouvelle. La nouvelle relation de Dieu avec les hommes. La nouvelle relation avec vous, avec moi, avec chacun. C'est quelque chose d'étonnant, de merveilleux. C'est la justice de Dieu, pas celle des hommes. La justice de Dieu qui ne s'établit pas selon les mérites, même les meilleurs, mais selon l'amour gratuit de Dieu. Dieu est libre dans son amour jusqu'à pardonner ce qui est impardonnable. Les gens vont dire, oui, mais c'est pas possible. Dieu, il va pardonner les petites affaires. Mais c'est pas possible qu'il pardonne ce qui est impardonnable. Les personnes qui vont tuer des enfants. Ou on peut dire les massacres. C'est impardonnable, ça. En dehors de toute logique, Dieu va pardonner l'impardonnable. Et c'est ça qui est étonnant. Saint Paul, au fond, a voulu interpréter, au fond, qu'est-ce que c'est cette nouvelle alliance? Qu'est-ce que c'est ce pardon qui est accordé sans qu'aucun mérite? Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5e, il parle de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu qui est sans limite. Cet amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Oui, il parle de l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. Oui, quand nous étions encore sans force, Christ, le Christ, au temps fixé, est mort pour les impies. Nous étions encore sans force, ça veut dire au fond, sans la force pour résister au mal. Nous étions marqués par le péché. Nous étions au fond des pécheurs. Le Christ est mort pour des impies. Il n'est pas mort pour des gens corrects. Et le texte de saint Paul va insister, il est mort pour des impies, ça n'a pas de bon sens. Et là, saint Paul dit, oui, mais c'est à peine si on pourrait donner sa vie pour quelqu'un de bien. Saint Paul dit, oui, c'est vrai, c'est difficile de donner sa vie pour quelqu'un de bien, mais pour un pécheur, pour des pécheurs. Ça montre jusqu'à quel point Dieu nous a aimés. Il nous a aimés. Il nous a, je dirais, pour reprendre l'image de la parabole de l'enfant prodigue, alors qu'on était impie, tout crotté, tout sale, comme le fils prodigue, il est venu nous mettre, je dirais, le manteau de fils de Dieu. Il vient nous donner son amour. C'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste. Hein? Peut-être. Pour un homme de bien, accepta-t-on de mourir? Oui, peut-être. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore tout crottés, tout sales. Et puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il est mort pour les pécheurs que nous étions, que nous sommes au fond encore. C'est ça l'amour. Il y a un autre texte que j'aime beaucoup. C'est juste trois textes que je vous lis. C'est des textes de saint Paul, pour moi, que je trouve très très beaux. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Vous connaissez peut-être cela? On pourrait mettre des choses. Qui pourra nous séparer? Et saint Paul vient nous dire, il n'y a rien. Et lui, il énumère des choses. Est-ce que la détresse pourrait nous séparer? L'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, la glaive? Mais en tout cela, nous sommes les vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour de Jésus sur la croix. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas. Aucune créature, non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si on veut être fidèle à cet amour-là, il faut se dire à soi-même, non, rien, rien. Ce ne sera pas comme mal interprété la parole de Dieu, ce sera exactement interprété comme Jésus veut l'entendre. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça, c'est l'Épître aux Romains, chapitre 8. Un dernier texte, tiré des Éphésiens. Que le Seigneur habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Et quand on dit « rester enraciné dans l'amour », c'est l'amour de Dieu pour nous. Rester enraciné, ça veut dire « ayez des racines profondes ». Ce n'est pas simplement une petite racine. Restez enraciné dans l'amour de Dieu pour vous. Reste enraciné dans l'amour de Dieu pour toi. Établi dans l'amour. Et saint Paul continue. Restez enraciné dans l'amour, établi dans l'amour. Ainsi, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur. Quand on était jeune, hein, poser la question, est-ce que tu l'aimes, ta maman? Ah oui, gros comme ça. On sait bien que c'est encore plus gros que nos bras. Mais c'est un peu la même chose. Si vous restez enraciné dans l'amour de Dieu, vous allez découvrir à mesure, c'est encore bien plus grand que tout ce que vous pensez. Vous allez comprendre, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Rentrer dans l'amour de Dieu, c'est rentrer dans la plénitude de Dieu. C'est ça la nouvelle alliance. C'est pas moins que ça. C'est ça la nouvelle alliance. C'est pas celle qu'on a méritée. On l'a pas méritée. Ça nous a été donné gratuitement. C'est ça l'amour gratuit de Dieu. Donc, pendant quelques instants, je vous inviterai à laisser rentrer à l'intérieur de vous une ou l'autre de ces paroles, le texte de Jérémie, le texte d'Ézéchiel, de découvrir au fond que le Seigneur, à travers la parole du Maître, du Père miséricordieux, mettez-lui le vêtement de fils. Au-dessus de ces crocs, il n'y a pas besoin de passer à la douche avant. C'est ce que le Seigneur nous aime tel que nous sommes.